La chronique aléatoire. Et oui, vous l'avez manqué parce que c'est pas passé la semaine dernière en direct. On n'a pas fait le tirage au sort, mais on l'a fait sous couvert d'huissier durant notre réunion et on a tiré la revue de presse antique. Et donc j'ai tout naturellement été désigné pour la faire. Pourquoi tout naturellement? Bah, d'abord parce que chaque matin à 8h30, religieusement, j'écoute la revue de presse de France Inter. Et comme le samedi j'en suis privé, j'ai l'habitude de me lever à 3h du matin et de la faire moi-même en surfant sur le web. Et surtout, le reste de la semaine, je suis enfermé dans mes lectures antiques. Plus précisément, hein, ces derniers jours, il me tardait de lire la juvénile revue des études tardo-antiques, numéro 6. Hein, inutile de chercher une contrepétrie, mais j'ai dû abandonner mon antiquité tardive et m'y mettre promptement dès ce matin. Donc, en tout cas, je signale apparaître dans cette revue, hein, la RET, un article d'Amélie Bellili qui s'intéresse à la façon avec laquelle, au 5e siècle, se colporte la représentation péjorative de Justine. Donc, plus précisément, Justine est une impératrice et régente romaine qui s'était opposée à un évêque, Ambroise de Milan. Ce dernier a écrit dans des lettres l'archétype des clichés négatifs qui devaient inlassablement se réécrire de copiste en copiste, juxtaposé à son nom. L'évêque Ambroise dépeint Justine en Jézabel, d'après la tradition du Livre des Rois qui voulait que la princesse phénicienne Jézabel, épouse du roi Achab, hein, aucun rapport avec les clichés négatifs sur la police. Donc Jézabel, disais-je, avait, selon l'Ancien Testament, introduit le culte de faux dieux, persécuté les juifs et poussé Achab au meurtre et à la tyrannie. Raison pour laquelle elle fut défenestrée et son corps mangé par des chiens. Donc Justine en Jézabel apparaître donc dans la revue des études tardo-antiques. Une femme, en tout cas, ne se fera pas défenestrer à l'Élysée ni manger par les chiens, on en est sûr depuis hier, c'est Marie-Noëlle Lindemann. En effet, nous apprend le Figaro, la sénatrice socialiste, fervente partisane de la primaire de gauche, a renoncé à se présenter pour, dit-elle, favoriser l'unité de son courant. C'est qu'à la gauche du PS, entre Montebourg, Filoche et Hamon, l'espace était restreint pour un quatrième candidat. Et pensez-vous donc pour une candidate? Et l'on songe, si seulement, pour une fois, c'était les hommes qui s'étaient effacés, alors Valls serait déjà devancé. Mais, on se rassure, hein, le Figaro affirme que c'est pour sauver son poste de sénatrice face à un chantage à la tête de liste au Sénat que Marie-Noëlle Lindemann aurait passé son tour. Hubris des femmes dans l'arène ou non, vous avez compris que je m'intéresse à la primaire de l'Alliance qui se donne pour épithète « belle et populaire, rien que ça ». Hier, dans l'émission « Du grain à moudre » sur France Culture, la rusée Ludivine Bantini parvient enfin à en placer une question bien piquante d'ailleurs.
Ludivine, est-ce que vous voyez, vous, plusieurs gauches distinctes se dessiner dans cette compétition que va être la primaire de la belle Alliance populaire?
On a quand même un problème de vocabulaire qui, à mon avis, va au-delà de la sémantique. C'est-à-dire que moi, je demande, vraiment, je demande très sincèrement, hein, la question est ouverte, qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Manuel Valls, hein? Qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Emmanuel Macron? Je pose cette question et j'aimerais bien qu'on me réponde, parce que moi, je n'ai vu que des mesures vraiment antisociales. Voilà.
Puisqu'en grec... ça, c'est juste après. Puisqu'en grec se dit deixios... en grec, droite se dit deixios, on aurait dans l'Antiquité donné à Valls et à Macron l'épithète ambidextre, pour dire qu'ils sont aussi habiles à leur droite qu'à leur gauche. D'ailleurs, devinette, saurez-vous reconnaître Pujadas est en train d'esquisser le portrait?
Il veut être le François Fillon de la gauche, l'homme tranquille, sans effet de manche.
Alors, vous devinez? Non.
Aujourd'hui, il récuse la social-démocratie et avance ses pions. Revenu universel, semaine de 32 heures, abrogation de la loi travail. Est-il la gauche de demain? Voici l'émission politique avec Benoît Hamon.
Ha ha! Nous avons peut-être un candidat de gauche pour les primaires, enfin. Évidemment, je dis de gauche, je n'évoque pas Gérard Filoche, qui n'a aucune chance de gagner, puisque encarté depuis 50 ans à la CGT avec sa carrière d'inspecteur du travail, hein, il passe vraiment pour le plouc de service. Bon, pourtant, Benoît Hamon, dit Pujadas, détonne lui aussi.
Vous avez, Benoît Hamon, une vision totalement iconoclaste qui tranche tout le reste de la gauche sur une question principale.
Je crois que c'est même très majoritaire sur ce que je vais vous dire, mais bon, allons-y.
Peut-être parmi les militants ou les sympathisants, mais en tout cas pas parmi ceux qui concourent à cette primaire notamment, sur la question de la croissance, sur la course à la croissance. En quoi la course à la croissance, pouvez-vous nous l'expliquer, nous fait du mal?
D'abord, je pense que tout ça relève maintenant d'un culte, d'un mythe, d'une quasi-religion cap sur la croissance.
Un culte, un mythe, la religion de la croissance, c'est excessivement pertinent. Et d'ailleurs, Pujadas, lui aussi bizarrement pertinent, voit tout de suite où mène le terme de croissance. Au mal. Hein, d'après le verbe grec auxano, qui intransitif donne, depuis Aristote, comme par hasard, grandir, croître, ou transitif, augmenter en force, en nombre, croître, devenir grand, depuis auxano, on forme auxesis, le fait de croître, l'accroissement, ce que nos païens appellent la croissance. Les Grecs ne s'y étaient pas trompés, eux qui s'étaient donné une déesse de la croissance, Auxesia, qui est l'un des surnoms de Perséphone, l'épouse de Hadès, régnant sur les enfers. Hein, adepte de la croissance, vous êtes prévenu. Sauf que Auxesia sort de ses enfers 4 mois de l'année, au printemps, pour faire croître la végétation. Mais ces temps-ci, Auxesia, comment vous dire ?
Elle ne revient pas, et pourtant on lui voue un culte au point de lui faire des sacrifices et des offrandes considérables. Et on ne peut pas dire que le dernier quinquennat n'ait pas été particulièrement dévot. 40 milliards autour du pacte de responsabilité du CICE, la loi travail, la loi Macron, et pourtant la croissance ne revient toujours pas. Première chose. Deuxièmement, ce qu'on est capable aujourd'hui de sacrifier en matière environnementale, écologique, pour aller chercher quelques déciles de croissance, est devenu là aussi considérable, tant par rapport à ce que sont nos réserves de forêt, nos réserves d'eau, de combustibles fossiles, etc., etc. Et ce que je pense, moi, c'est que, oui, je fus croyant, mais je ne le suis plus.
Une gauche en pleine déréliction qui tourne le dos à la croissance, à auxesis, mais peut-être que c'est à l'acception rhétorique de l'auxesis que Hamon renonce. Oui, hein, nos amis qui fréquentent les bandes des cours d'éloquence le savent bien, n'est-ce pas ? Auxesis donne en grec le nom auxèse, qui est la figure de style qui consiste en une gradation d'hyperbole, n'est-ce pas Victor, hein, au terme de laquelle c'est le paroxysme, voire la négation.
J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots, c'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné.
On est loin de l'austérité du type de gauche, hein, vous avez vu ?
Est-ce que vous faites l'éloge d'une forme de frugalité ? Est-ce que vous dites la consommation, la course à la consommation, c'est aussi une forme d'illusion pour le bonheur ?
Dans la tempérance.
Quel rabat-joie alors ce Benoît Hamon ! Le terne Hamon, contre Valls, le flamboyant, le démesuré. D'ailleurs, hubris, c'est ça que ça veut dire, non ? Être incapable de prendre la mesure ?
J'assume tout ce que nous avons engagé, les réformes pour la compétitivité de nos entreprises, ce que nous avons fait pour l'école, la culture, l'agriculture, pour les services publics.
3,3, on est bien d'accord, oui. Avec une dette qui a progressé, une dette publique de 343 oui. milliards d'euros. 343 milliards d'euros.
Mais j'assume aussi la réduction de la dépense.
Avec une croissance qui est à 1,3 alors qu'ailleurs en Europe elle est beaucoup plus élevée.
Non,
avec un chômage qui est à 555 000 chômeurs de plus en 5 ans.
Et alors ça empêche d'être candidat ?
Et alors, ça empêche d'être candidat ? Mais non, Manuel, pas de souci. Bon, tant de réjouissances, c'était assez délassant, hein, le cirque du PS. On a entendu dans cette revue de presque d'Athènes à l'Élysée rien que des cousins. Maintenant, je peux retourner à mes bouquins et me remettre aux choses réellement sérieuses. Merci, à la semaine prochaine.
Bravo.
Ah, merci.
C'était une bonne chronique éclairée.
Non, mais attendez, vous êtes sérieux ?
Comment ça ?
Pardonnez-moi, mais j'avais dit que je m'en tenais là pour aujourd'hui, mais je peux pas laisser passer ça. Une revue de presse, c'est ça pour vous ? Et qu'est-ce qu'on est censé y apprendre ? À part que oui, les dominants ont toujours de l'ego mal placé, alors ils font des chamailleries, et ces chamailleries sont pour les gens du peuple au mieux un moment de répit, au pire un divertissement un peu glauque. Vraiment, la primaire socialiste, c'est tout ce qui vous remue dans l'actualité de ces derniers jours. Je vais vous en donner, moi, de la revue de presse. Histoire qu'on réalise que c'est toujours les mêmes qui prennent, tous les jours et partout. On y va, dans l'ordre. Lille. On apprend dans la Croix du Nord que la ville a annoncé la construction d'une piscine olympique sur la friche de la gare Saint-Sauveur. Véridique. Encore un grand chantier inutile, encore des fonds publics qui vont aller dans les poches des manias du BTP et surtout, encore un projet d'urbanisme décidé sans la moindre concertation avec les habitants. Enfin, on peut se consoler en se disant qu'au moins, avec un bassin de dimension olympique, on pourra noyer tous les notables d'un coup. Paris. Au musée d'Orsay, une enseignante et ses élèves se font insulter puis mettre à la porte par les vigiles. Ses élèves venaient, je vous le donne en mille, d'un lycée situé à Stein, dans le 93. Mais vous comprenez, quand on dit que les pauvres doivent avoir accès à la culture, ça veut dire qu'ils doivent avoir l'impression que les musées sont ouverts mais qu'ils sont trop bêtes pour y entrer. Il ne faudrait surtout pas qu'ils le prennent au pied de la lettre. Europe. Dans l'édition du Monde d'avant-hier, on apprend qu'une grève générale a démarré jeudi à Athènes pour protester contre un projet de loi visant à simplifier encore les licenciements. C'était la condition préalable donnée par la Banque Centrale Européenne pour une nouvelle révision de la dette grecque. Vous voyez, si vous vouliez faire honneur aux Grecs, il y avait mieux à faire qu'une leçon d'étymologie. États-Unis. On apprend dans The Guardian, journal britannique, que les militaires qui patrouillent le long de la frontière mexicaine ont adopté une stratégie brillante pour régler le problème de l'immigration clandestine. C'est que, voyez-vous, quand on attrape quelqu'un et qu'on le renvoie de l'autre côté de la frontière, il y a une forte chance qu'il retente le coup pour plus tard. Comme on ne peut pas non plus leur tirer dessus, les patrouilleurs poursuivent les clandestins dans le désert de l'Arizona où ils les laissent se perdre et très probablement mourir. Une association mexicaine pour les droits de l'homme estime que pas moins de 1200 personnes ont disparu pour la seule année dernière. Et voilà pour votre revue de presse. C'est quand même pas compliqué. En plus, j'ai été bon joueur, j'ai pris tout ça dans des journaux de droite. En tout cas, maintenant je suis sûr d'une chose. Je pensais avoir perçu des signes d'amélioration dernièrement, au point de répondre à votre invitation en toute décontraction. Mais de ce que j'entends là, j'en conclus que vous êtes encore loin de pouvoir vous passer de mes services. Allez, à une prochaine fois.